La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, édition du mardi 30 décembre 2014. En direct de Washington, Camille Grosdidier et Georges Léonard Sagnot. Bonjour Georges.
Bonjour Camille et bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, difficile démarrage du procès des pro-Gbagbo.
L'audience de ce lundi a été consacrée à la présentation des accusés et à l'exposé des faits qui leur sont reprochés.
Notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri, aura tous les détails. Selon l'UNICEF, l'Afrique va connaître une explosion démographique sans précédent.
Les experts conseillent donc aux gouvernants de deviser des politiques intelligentes pour se préparer à ce qu'ils appellent un tsunami de bébés à l'horizon de 2050.
On suivra les explications de Chérubin d'Orcil et après son geste vis-à-vis de Cuba, le président Barack Obama semble tendre la main à l'Iran, mais à certaines conditions. Ne manquez pas non plus la minute de l'économie, les sports et en fin d'émission, bien sûr, la musique de Roger Muntou, mais pour l'instant, le journal. Les habitants du nord de la Sierra Leone ont repris leurs activités lundi après 5 jours de confinement pour enrayer la progression de la fièvre hémorragique à virus Ebola, signale l'agence France-Presse. Le confinement avait été imposé du 24 au 28 décembre pour briser la chaîne de transmission du virus et permettre aux équipes anti-Ebola de faire transférer des malades de leur domicile vers des centres de prise en charge.
Camille, entre-temps, il faut dire que de nouveaux foyers ont été signalés dans l'est du pays selon les autorités. Au moins 3 nouveaux foyers d'épidémie ont fait leur apparition dans le département de Kono.
Le bilan de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, les 3 pays les plus touchés par la fièvre hémorragique, s'élève désormais à 20 081 cas et 7 842 décès. A annoncé lundi, l'Organisation mondiale de la santé et plus du tiers de ces cas confirmés en laboratoire ont été recensés en Sierra Leone, le plus affecté des 3 pays. Par ailleurs, c'est au Libéria que l'on recense le bilan officiel le plus lourd, à savoir 3 413 morts.
Pendant ce temps, un travailleur de la santé rentré à Glasgow en Écosse après un séjour en Sierra Leone souffre bel et bien du virus à Ebola, ont confirmé les autorités. Il est soigné dans un hôpital de la métropole. L'épidémie d'Ebola, qui sévit depuis 1 an, pourrait durer jusqu'à la fin de 2015, selon des responsables sanitaires.
De violents combats ont opposé ce lundi des groupes armés Touareg rivaux de Gatia et un groupe proche du MNLA dans la localité de Bamba, dans le nord du pays. Le bilan fait état de 5 morts. Des précisions avec notre correspondant Boubacar Touré.
Situé à 245 km au nord de Gao, Bamba est une commune du cercle de Borem. Ce lundi, de violents combats ont opposé dans cette localité de Bamba le groupe d'autodéfense Touareg des Imrad et un autre groupe armé Touareg proche des indépendantistes du MNLA. Le bilan varie d'une source à l'autre. D'aucuns parlent de 3 tués, d'autres avancent un bilan de 5 morts de part et d'autre. Selon des sources contactées sur place, un véhicule 4x4 calciné était visible sur les lieux de combat. Au moins 2 corps sans vie sont abandonnés par les combattants. Difficile de déterminer à quel groupe armé ils appartiennent. Il faut le rappeler, en octobre dernier, déjà des combats ont opposé le MNLA et le Gatia à Intilit, situé à 130 km de Gao au sud-ouest, faisant au moins 7 morts. En tout cas, les indépendantistes Touareg, chassés de la ville de Bamba en fin de semaine dernière, tentent coup sur coup de reprendre le contrôle de la localité de Bamba où il n'y a aucune présence de militaires maliens. Gao. Boubacar Touré pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, difficile démarrage du procès des pro-Gbagbo. Il a fallu près de 3 heures de discussion entre la Cour et la Défense pour que les choses commencent véritablement. Dans le box des avocats, l'irrégularité de la Cour chargée de juger les accusés demeure une préoccupation. Voici le compte rendu de Germain Dri, le correspondant de la Voix de l'Amérique à Abidjan.
L'audience de ce lundi a été consacrée à la présentation des accusés et à l'exposé des faits qui leur sont reprochés. Des faits qui sont atteintes à la sûreté de l'État, troubles à l'ordre public, constitution de bandes armées, tribunaux. colonialisme, xénophobie, bref, une panoplie de chefs d'accusation qui pèsent sur les 83 prévenus. S'agissant de la cour mise en place vendredi, les avocats de la défense la jugent irrégulière, Maître Mensa Daouda Traoré.
Un conseil titulaire ne peut pas qu'une ordonnance soit prise pour nommer le nouveau conseil. C'est aujourd'hui seulement que cette ordonnance a été prise, alors que un conseil suppléant avait déjà statué avec cette cour, avait déjà siégé, ce qui n'est pas normal. On nous prend une décision donc qui rétroagit. Nous estimons donc qu'il y avait cette irrégularité qui devait soulever. La cour devait en tenir compte. Malheureusement, comme nous l'avons tous constaté, la cour a trouvé par des artifices, a réussi à passer outre cette irrégularité.
Pour Maître Blédé, l'avocat de Michel Gbagbo et Afinguessan, des corrections sont nécessaires pour le bon déroulement du procès.
Nous sommes actuellement devant une cour irrégulièrement constituée qui doit juger des gens. Vous savez, nous pensons que manifestement, il y a des actes qu'il va falloir corriger. Il y a des choses qu'il va falloir revoir avant de pouvoir poursuivre. Parce que des gens qui sont là en cours des peines très graves.
Avant le début du procès de Pro Gbagbo, le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Ahmed Koulibaly, a ordonné le retrait pur et simple de la candidature de Laurent Gbagbo au poste de président du Front populaire ivoirien. Maître Ogou Daniel, avocat de l'ancien président, non satisfait du jugement, se propose d'interjecter appel. Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, s'est félicité lundi de la reprise des livraisons d'aide alimentaire au Soudan du Sud par voie fluviale. Une barge affrétée par le PAM, qui était partie de la ville soudanaise de Kosti, a déchargé 450 tonnes de nourriture dans les villes de Renk et de Wadakonad, situées dans la province du Haut-Nil, au Soudan du Sud, affirme l'ONU. La cargaison permettra de fournir de la nourriture à environ 28 000 personnes pour un mois. Les transports fluviaux d'aide humanitaire entre le Soudan et le Soudan du Sud étaient pratiquement interrompus depuis la fermeture de la frontière entre les deux pays suite à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.
Direction la Somalie, selon le Pentagone, les États-Unis ont mené un raid aérien contre un haut responsable des Chebabs en Somalie. Un porte-parole de l'armée américaine a précisé que la frappe a eu lieu à proximité de Chakov, mais il n'a pas révélé l'identité de l'islamiste qui a été visé. En septembre dernier, une frappe aérienne menée par les États-Unis en Somalie a coûté la vie à un autre chef des Chebabs, Ahmed Abdi Godan.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un accord sur le programme nucléaire de Téhéran est possible, a estimé lundi le président Barack Obama. Ce serait d'ailleurs un premier pas nécessaire en vue d'une reprise plus ample des liens diplomatiques entre les deux puissances. Dans une interview avec la chaîne nationale National Public Radio, NPR, diffusée lundi, M. Obama a estimé qu'une ouverture entre Téhéran et Washington nécessiterait de la part de l'Iran qu'il dispose d'un programme nucléaire pacifique vérifié. Son économie s'épanouirait alors sans les entraves de sanctions internationales et le pays pourrait également réintégrer la communauté internationale, a dit M. Obama.
Dans un effort de rapprochement avec l'OTAN, le président ukrainien Petro Poroshenko a promulgué hier une loi par laquelle son pays abandonne le statut de non-aligné. Moscou promet des représailles en cas d'adhésion de Kiev à l'Alliance transatlantique. Les précisions de Félix Yepasis-Zembro.
Le président Poroshenko a dit que c'était une erreur stratégique d'obtenir le statut de pays non-aligné en 2010. C'est une décision qui, selon lui, a détruit les forces de défense ukrainiennes. Les combats entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes ont fait près de 5 000 morts cette année. L'Ukraine et les pays occidentaux accusent la Russie de renforcer les rebelles en hommes et armes, des accusations que rejette Moscou. En dépit des tensions entre leurs deux pays, le président Poroshenko a annoncé hier une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine ainsi que les leaders d'Allemagne et de France le 15 janvier à Astana, au Kazakhstan. Il a par ailleurs dit qu'il ne voit pas de solution militaire au conflit et que le cessez-le-feu doit être respecté. Les autorités ont de leur côté promis de sévères conséquences en cas d'entrée de l'Ukraine à l'OTAN.
Les Palestiniens font pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'ils se prononcent cette semaine sur une nouvelle résolution concernant leur avenir. Celle-ci porte sur le retrait israélien de la Cisjordanie et la fin d'ici à 3 ans de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. Les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas soutenir une résolution de l'ONU qui fixe un délai pour le retrait des forces de sécurité israéliennes des terres palestiniennes. La résolution pourrait également échouer si elle ne s'attire pas le soutien de 9 pays, le minimum nécessaire pour son adoption.
La résolution palestinienne, il faut signaler Camille, appelle à un accord de paix avec Israël d'ici à un an et la création d'une capitale palestinienne à Jérusalem-Est, un secteur également revendiqué par l'État hébreu comme capitale, bien que la plupart des pays étrangers maintiennent leurs ambassades à Tel Aviv.
Et puis le géant pharmaceutique Roche Holding a annoncé lundi que les autorités sanitaires américaines ont accordé une autorisation d'utilisation d'urgence à son test de détection du virus à Ebola en réponse à la pire épidémie de la maladie qui sévit depuis un an en Afrique de l'Ouest.
L'administration.
Oui, et maintenant, nous, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Camille.
La Côte d'Ivoire lance la couverture maladie universelle, la CMU.
Il s'agit d'un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Le régime de base propose un package minimum de soins offerts à toutes les populations ivoiriennes à raison d'une contribution mensuelle de 1 000 francs CFA par assuré. Le régime non contributif, lui, concerne les personnes en situation d'indigence pour qui l'État va injecter près de 49 milliards de francs CFA dans les caisses de la CMU.
Démographie, l'UNICEF prédit un baby-boom à l'horizon de l'an 2050.
L'agence onusienne annonce notamment que 2 enfants sur 5 dans le monde sera en Afrique. Ce changement sans précédent a deux causes. D'une part, de nombreux jeunes vont bientôt atteindre l'âge de la reproduction, ce qui va provoquer un baby-boom. Et de l'autre, la mortalité infantile a chuté. Les experts exhortent les pays africains à se préparer à ce qu'ils comparent à un tsunami de bébés en mettant en place des politiques gouvernementales intelligentes.
Il est très important que les leaders africains réfléchissent au futur de l'Afrique. Gouverner, c'est en fait anticiper, c'est réfléchir au futur qui arrive. Donc il faut planifier ce futur. Et la planification devient un instrument de gouvernance très fondamental qui permet d'allouer des ressources aux populations qui en ont besoin.
C'était le professeur Kwaku Kofi de l'université de Wits à Johannesburg.
Et puis, les prix du pétrole ont fini à leur plus bas niveau depuis 5 ans et demi, hier soir à New York.
Oui, et cela après une éphémère remontée des cours due au combat en Libye. Le marché est grippé par des craintes sur la surabondance de l'offre mondiale en brut face à des perspectives de demande plutôt morose. Le baril pour livraison en février a perdu 1,12 $. Pour s'établir à 53,61 $ à New York, soit son niveau le plus bas en clôture depuis le mois de mai 2009, d'après l'AFP.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger. Et on enchaîne avec les sports. Présentation Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Camille.
Alors, la CAN 2015, eh bien, la liste des 23 éléphants est connue.
Oui, et pas de surprise, hein, la plupart des ténors sont là. Yaya et Kolo Touré, Tioté, Gervinho et bien sûr Didier Drogba et Didier Zokora qui ont pris leur retraite internationale avec l'équipe de Côte d'Ivoire ne figurent pas sur cette liste.
En Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa est à la tête du championnat après 5 journées.
Oui, les Mimosa totalisent 10 points. De même que 2 autres clubs, quant au champion sortant, le CW Sport San Pedro, il n'a que 5 points. J'ai demandé à Alain Guamene, l'entraîneur de l'ASEC, s'il pense que la succession du CW est déjà ouverte.
C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt au CW, mais il faut reconnaître que le CW Sport a souffert pendant 3 ans sans arrêt, a joué tout le championnat Coupe d'Afrique. Ce n'est pas évident, mais c'est trop tôt pour le dire. Il faut attendre.
Ouais. Est-ce que l'objectif, c'est de ramener l'ASEC à retrouver sa gloire d'antan?
Ah oui, ça c'est l'objectif d'abord. Et le challenge, c'est de ramener l'ASEC au grand compas, comme le grand ASEC, parce que pour retrouver le grand ASEC, ça c'est pas maintenant, mais simplement essayer de bien jouer d'abord, de jouer le football à l'ASEC Mimosa, essayer de mieux jouer au football et de gagner, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Ce qui n'est pas évident. Mais l'objectif, c'est de ramener l'ASEC au premier plan.
D'accord.
Et ça se fait pas sur un an, quoi. C'est un challenge qui va se faire sur 1, 2 ou 3 ans.
C'était Alain Guamene, entraîneur de l'ASEC Mimosa.
Et puis on termine avec le championnat nord-américain de basketball, la NBA. aucun doute dans le match entre les Sacramento Kings et les Brooklyn Nets. Sacramento a été dominé jusqu'au bout et s'est incliné 107-99. Par contre, l'Orlando Magic et le Miami Heat se sont livrés un combat acharné et Orlando ne l'a remporté que d'un point, 102-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, il est 5h45, temps universel. Vous suivez Le Monde aujourd'hui en compagnie de Camille Gros-Didier. En République démocratique du Congo, l'opposition exige un nouveau dialogue début 2015 avant l'organisation des élections locales et municipales. Ce dialogue, selon cette frange de l'opposition qui n'a pas participé aux concertations nationales en 2013, devrait statuer notamment sur le remplacement de l'actuel président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu. On suit un reportage de Jean-Paul Mbouya de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Dialogue majorité-opposition, une frange de l'opposition fixe l'opinion sur le terme de référence. Ces discussions qui doivent être brèves doivent permettre de poser les jalons pour organiser des élections apaisées et crédibles. Jean-Claude Wemba est vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés à l'Assemblée nationale. Il exige déjà l'organisation des élections pour un nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante.
Nous disons nous avons besoin de la restructuration institutionnel pour prendre en gage, en charge, toutes les personnalités qui seront candidats. Le départ de Malumalu est acquis. Malumalu a quel crédit? Cet homme-là n'a plus aucun crédit pour diriger la CENI. Le second de M. Malumalu peut devenir président de la CENI. Il y en a beaucoup. Nous n'avons pas besoin de chercher un président de la CENI pendant un mois, deux mois. Ah non!
Du côté de la majorité, on soutient la tenue d'un dialogue, mais on reste opposé au départ du président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu. Serge Kadima est cadre de la majorité.
Le président Malumalu, il a été désigné par la société civile. Et aujourd'hui, il n'appartient plus à la société civile. Il est maintenant président d'un organe indépendant. Il engage tout le monde. La désignation des membres qui composent la CENI a été faite de manière démocratique et constitutionnelle. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas débat. Mais par rapport au dialogue, le président Kabila reste toujours ouvert, il restera toujours. Parce qu'en 2001, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait promis l'ouverture. Et c'est l'homme qui a toujours sa main tendue. Il est prédisposé à recevoir toutes les initiatives qui tentent à consolider, à renforcer la cohésion nationale.
Après les concertations nationales organisées l'année dernière, sanctionnées par la formation d'un gouvernement de cohésion nationale mise en place le 7 décembre dernier, le dialogue inclusif devrait permettre de réunir les opposants qui avaient boudé ces concertations pour cause. D'après ces opposants, ces concertations n'avaient pas été organisées par les Nations Unies. Kinshasa, Jean-Paul Mbouya, Top Congo, pour la Voix de l'Amérique.
Camille Gros-Didier avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Vers l'année 2050, 2 enfants sur 5 dans le monde seront sur le continent africain. La prédiction de l'UNICEF reflète un changement démographique sans précédent. Alors, quelles en sont les causes et comment s'y préparer? On écoute Chérubin Dorsil.
Deux causes complémentaires sont suggérées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans ce rapport publié lundi. La population déjà jeune sera bientôt en âge de procréer, causant un baby-boom, et les taux de mortalité infantile ont baissé. Les experts conseillent donc aux gouvernants de deviser les politiques intelligentes pour se préparer à ce qu'ils appellent un tsunami de bébés à l'horizon de 2050. En effet, dit le rapport, les projections montrent que d'ici 2050, environ 40% des naissances se produiront en Afrique et qu'environ 40% de la totalité des enfants se trouveront en Afrique, une augmentation d'environ 10% par rapport à 1950. Déjà, le phénomène se fait sentir dans certaines régions. Le pasteur Princewell Emiliaga est propriétaire d'une garderie à Johannesburg en Afrique du Sud et dirige une église à Lagos au Nigeria. Il nous dit que l'effectif de sa garderie a subi une augmentation à l'exponentielle depuis 12 ans
passant de 20 enfants à plus de 130.
Every year, these numbers are growing.
Ces chiffres augmentent chaque année. Nous constatons un changement majeur. Des enfants atteignent l'âge de transfert vers d'autres institutions. Pourtant, l'effectif ne baisse jamais, dit-il. En revanche, la perspective d'une croissance démographique accrue en Afrique présente aussi des avantages. L'Afrique abrite déjà les populations les plus jeunes du monde. Dans les prochaines décennies, ces jeunes deviendront capables d'avoir des enfants. Le taux de fertilité est aussi très élevé sur le continent. Pour Leila Garaguzlu-Pakala, directrice régionale à l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, citée dans un communiqué de l'agence onusienne, ce rapport doit servir de catalyseur à un débat international, régional et national sur les enfants africains. En investissant aujourd'hui dans les enfants, dans leur santé, leur éducation et leur protection, l'Afrique pourrait tirer parti des avantages économiques auparavant connus par d'autres régions et d'autres pays qui ont connu des changements démographiques similaires. De son côté, le chercheur académique Kofi Kwaku de l'université du Witwatersrand à Johannesburg parle d'un énorme défi de politique publique.
Every leader or every president's got to be able to think about it.
Il dit que chaque leader, chaque président doit y réfléchir. S'ils ne sont pas prévoyants, la situation risque d'être grave, car le taux de croissance démographique pourrait dépasser la quantité de ressources disponibles. Si la population devient de plus en plus élevée, il faudra plus d'infrastructures, de logements, de nouvelles villes, il faudra davantage de matériaux de construction, de nourriture, d'eau, etc. Pourtant, ajoute le professeur Kwaku, si l'Afrique a de nombreux problèmes, sa population n'est pas l'un d'entre eux. L'Afrique, soutient-il, n'a pas un problème de population. Ce qui serait un problème sur le continent, c'est l'allocation des ressources. Il existe partout des terres fertiles. La clé, c'est comment gérer ces ressources, ajoute Kofi Kwaku. Avoir une famille nombreuse peut être très tentant pour beaucoup de parents africains, mais leurs moyens financiers peuvent ne pas s'y prêter. Et pour ces tout-petits de Johannesburg et d'ailleurs, le baby-boom des prochaines décennies aura des conséquences bien au-delà de ce que cette génération peut comprendre. Que l'on soit prêt ou non, la réalité frappe à nos portes. Alors, autant s'y préparer.
Camille Grosdidier pour La Voix de l'Amérique. Alors, où est donc passé l'avion de la compagnie malaisienne Air Asia ? Disparu dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord. Les recherches se poursuivent ce mardi, mais pour l'heure, le mystère reste entier, même si les autorités indonésiennes ont affirmé que l'appareil est probablement au fond de la mer. La disparition de cet Airbus A320 vient s'ajouter à un horrible bilan pour l'aviation civile en 2014. Souvenez-vous du MH370, ce Boeing de la Malaysia Airlines qui s'est volatilisé depuis le 8 mars dernier. 9 mois après, encore aucune trace. Et il y a eu aussi le cas du vol MH17 et de l'AH5017. Jacques Aristide nous propose un condensé de certains incidents aériens qui continuent à laisser perplexe.
Ce n'était pas un avion, mais la première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître. Mais le cas peut-être le plus raconté jusqu'aujourd'hui, la disparition d'Amelia Earhart, la première femme à avoir volé en solitaire au-dessus de l'Atlantique pour ensuite disparaître dans le Pacifique en 1937. Autre date, autre mystère, le 5 décembre 1945, 5 appareils militaires décollent de la Floride. Plus tard, les pilotes ne trouvent pas où atterrir et sont contraints d'amerrir. L'un des avions partis à la recherche disparaît également, des incidents qui sont à l'origine de la légende du triangle des Bermudes. Et maintenant, un numéro de vol dit maudit, le numéro 191. Exemple, l'avion expérimental X-15, vol 191, s'écrase en 1967. Idem pour l'American Airlines 191 en 1979. Un crash et du cannibalisme, cela se produit en 1972. Un appareil uruguayen s'écrase dans les Andes, 29 morts, 16 survivants qui se nourrissent des cadavres des autres passagers. Polémique et interrogation, c'est ce qui a suivi la catastrophe du vol TWA-800 tombé dans l'Atlantique après son décollage de New York en 1996. Explosion en raison d'un court-circuit ou tir de missile accidentel, les questions demeurent. Dans l'Atlantique encore, un avion d'Egypt Air faisant le trajet New York-Le Caire s'écrase en 1999. Tous les 217 passagers et membres d'équipage périssent. L'enquête américaine blâme le copilote présumé suicidaire en évoquant son ultime vol. Mais les Égyptiens, eux, parlent plutôt d'une défaillance mécanique. Et pour clore cette liste non exhaustive, la disparition de l'Airbus A330 en 2009 dans l'Atlantique. À son bord, 288 passagers et membres d'équipage. Le rapport final indique la confusion totale dans le cockpit après la déconnexion du pilote automatique. La cause, des cristaux de glace ayant affecté les capteurs de l'avion. L'appareil de Malaysia Airlines rejoint donc ces disparitions les plus étranges, des énigmes encore à percer.
Et on enchaîne avec la page musicale en compagnie de Roger Muntu. Alors bonjour Roger.
Bonjour Camille. L'année 2014 se termine en beauté pour Black M. Le rappeur allonge sa tournée en 2015 et annonce deux nouvelles dates dont la capitale française. Quelques jours seulement après s'être produit au Zénith de Paris, il sera en live à l'Olympia au printemps. On l'écoute ce matin avec les Sections d'Assaut dans Africain.
Une bonne nouvelle pour le rappeur Black M qui vient d'annoncer qu'il se produira dans la salle mythique de Bruno Cocatrix au printemps prochain.
Oui Camille, deux dates, les 21 et les 22 avril, dont la capitale française, sont déjà ajoutées, alors que la tournée de l'artiste, hein, qui devait initialement se terminer cet hiver, vient d'être prolongée jusqu'au mois d'août 2015. Black M rencontre un grand succès dans les salles de concert où il s'est produit, aussi important que celui qu'il rencontre dans les charts.
C'était Black M et les Sections d'Assaut dans Africain. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Camille, un grand bonjour à nos auditeurs de Lomé au Togo.
Et bien sûr, vous le savez, vous retrouverez Roger Muntu dans le RM Show à 20h, temps universel. Soyez au rendez-vous.
Je l'ai senti de loin, étant donné que j'ai un gros nez. Quand on est plein, partager ça nous connaît. Trop généreux, résultat, toutes nos terres sont volées.
Je vais te montrer mes papiers, ok, mes distress. Ne parle pas comme si j'étais d'une autre espèce. Pour tous les Africains d'Europe aux States qui rêvent de rouler dans des grosses caisses. Je veux voir un Africain dans l'espace. Je veux plus voir l'Afrique à genoux. En attendant que les problèmes stassent. S'il y a un mafé, appelez-nous.
Africain. Ne jugez pas, chaque main est comme il est.
Je ne suis qu'un Africain.
Je veux marcher sur la lune, mais la voix c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Dernier de l'échelle mondiale, les mecs, c'est quoi les bails? L'Africain déterminé m'a dit Games open your eyes. Quand ils parlent de l'Afrique, c'est pour citer le nom des plages. Je suis victime d'un faux départ, ouais. Nombreux n'ont pas les lots. Il manque tellement de choses. Ils te diront l'Afrique c'est dangereux. Mais tout ça c'est des mots. En attendant moi j'ai du boulot cette semaine. J'ai du taf toute la semaine. J'en veux tellement qu'il t'a bousillé mes sapes, mes semaines. Moi ouais, j'ai du job cette semaine. Et j'en veux beaucoup.
J'ai pas trop pour mais je rêve de soulever la coupe. Je garde le sourire malgré que j'avance dans le doute. J'ai vu toutes sortes d'épreuves venir se poser sur ma route. C'est sûr que je vais t'en vouloir si je te vois cracher dans la soupe. Je suis africain, m'en veux pas d'être un peu trop rêveur. Prisonnier d'un hess forever. Oui, je suis insolite, souvent je ne tiens qu'avec du maro. Et si néné, enfin j'y mettrai le prix quel que soit le tarot. Je te laisserai pas mettre KO comme le dit Petro, c'est Sao.
Je m'appelle Mamadou. Y'a pas plus cramé. Peux venir manger chez moi, pas besoin de programmer. Où est le drame? Sais-tu seulement que c'est le neveu d'Abdraman? On a évolué, tout ça grâce à tout ce qu'on a appris dans la madrasa. Quand est-ce qu'on portera le brassard? Le jour où la paix nous embrassera.
Africain. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est.
Je ne suis qu'un Africain.
Je veux marcher sur la lune, mais l'amour c'est m'humilier. Et tous les jours, mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nous faire les endiguer.
Le Monde aujourd'hui, la voix de l'Amérique. En direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Georges Léonard Sagnot pour suivre de l'actualité et aussi la mise en onde. Au micro, Camille Gros-Didier, une très très bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.